Douiman.
Merci de nous rejoindre sur les Sanganiro. Voici les grands titres de ce journal. Le Burundi a déjà manifesté son intérêt d'adhérer à la norme internationale de transparence dans l'industrie extractive, dite ITE. Un atelier de sensibilisation dans ce sens a été organisé ce vendredi. Plus de 300 enseignants bénévoles ayant presté dans l'ancienne commune scolaire de Rumonge réclament le paiement de leurs honoraires pour les deux derniers mois de l'année scolaire écoulée. Le gouvernement du Burundi devrait envisager de construire des maisons à location-vente, comme cela a été fait dans le passé, afin de pallier la problématique de logement. Une suggestion donnée par Gaspard Kobako, il est ancien ministre des Travaux publics. Voilà pour le sommaire.
Captez Isanganiro, écoutez la différence.
Plus de 300 enseignants bénévoles ayant presté dans l'ancienne commune scolaire de Rumonge réclament le paiement de leurs honoraires pour les deux derniers mois de l'année scolaire écoulée. Ils indiquent ne pas comprendre comment ces frais ne parviennent pas à leurs bénéficiaires. Bénigne Ninhunze, directrice de cette ancienne commune scolaire, répond que ces enseignants seront régularisés après le recouvrement en cours chez certains directeurs qui n'ont pas versé ces frais sur le compte y affecté, alors que les parents d'élèves sont en ordre. Jean-Pierre Misago.
Dans 3 mois d'impayés de frais de bénévolat réclamés par les enseignants bénévoles comme préalable pour la remise des résultats à la fin de l'année scolaire écoulée, seul 1 mois a été jusqu'à présent payé selon certains de ces enseignants. Ceux qui se sont exprimés disent ne pas comprendre pourquoi cette situation pour des frais pourtant payés par les parents d'élèves et demandent pour cela d'être rétablis dans leurs droits. Bénigne Ninhunze, directrice de cette ancienne commune scolaire de Rumonge, reconnaît ses impayés de frais de bénévolat. Elle indique que le processus de recouvrement chez les directeurs qui auraient détourné ses frais est en cours afin de régulariser ses enseignants sans pourtant préciser l'échéance. Lors de sa récente descente à Rumonge, le ministre de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique a ordonné aux directeurs n'ayant pas encore payé les salaires des veilleurs provenant du gouvernement burundais ou les frais de bénévolat provenant de l'effort des parents de le faire dans l'urgence. C'est au moment où certains directeurs réclamaient des rappels sur leurs salaires en rapport avec les erreurs constatées sur l'emploi type avant qu'ils ne soient affectés ailleurs. Jean-Pierre Misago de Purumonge, Radio Isanganiro.
Et 1950 enseignants parmi plus de 36 000 candidats au test de recrutement des enseignants ce vendredi seront engagés au Burundi. Annonce faite ce vendredi à l'Ecofongozi par le secrétaire permanent au ministère du Travail et de la Fonction publique. C'était lors du lancement officiel de ce test au niveau national. Selon Hermenegild de Burikukiye, le gouvernement du Burundi se référait aux listes d'attente des candidats ayant passé le test les années antérieures. Mais cette année, ils se sont retrouvés dans l'obligation de faire passer un nouveau test afin de se conformer à la nouvelle organisation administrative du Burundi. Et pour question de transparence, il ajoute que les enseignants bénévoles seront prioritaires. Et les toitures de 2 salles de classe de l'école fondamentale Kijima en zone Rutovu de la commune Bururi de la province Burunga ont été détruites par un tourbillon lundi cette semaine. Syriac Nahayo dit que ce tourbillon vient aggraver la situation car cette école avait fait recours au système de double vacation depuis l'année scolaire écoulée suite au manque de locaux. Ce responsable scolaire demande une aide en tôle pour que même les 3 autres salles de classe sans tôle soient couvertes afin de permettre la rentrée scolaire. Zenon Zambumana.
Ces 2 salles de classe de l'école fondamentale Kijima en zone Rutovu de la commune Bururi, province Burunga, ont été détruites au niveau des toitures aux environs de 16h de lundi de cette semaine suite au vent tourbillonnaire. Selon le directeur de cette école, Syriac Nahayo, dit que ce tourbillon vient aggraver la situation car cette école avait déjà fait recours au système de double vacation au premier cycle de la première année à la 4e année depuis l'année écoulée suite au manque de salles de classe auxquelles fait face cette école. Il fait savoir que les travaux de construction de ces 2 salles de classe dont dont les toitures ont été endommagées, avait été achevée très récemment pour stopper son système de double vacation. Son premier responsable scolaire à Kijima ajoute que cette école avait 3 autres salles de classe construites l'année écoulée, mais jusqu'ici sans toiture, ce qui fait le total de 5 salles de classe qui ont besoin d'être couvertes. C'est Yak Nahayo, de même que les parents des élèves de cet établissement disent que son manque de locaux devra sans doute perturber à cette école la rentrée scolaire prévue ce lundi. Ils demandent un appui financier pour achever les travaux de construction de ces 3 salles de classe et réhabiliter 2 autres qui ont été détruites par ce vent tourbillonnaire. Ferdinand Ouimana, secrétaire exécutif de la commune de Bruli, indique que le rapport sur ce cas a été déjà transmis à leur hiérarchie. Toutefois, il indique que la commune compte organiser une réunion à l'intention des parents et des éducateurs de cet établissement pour étudier ensemble la contribution de chacun afin que ces salles de classe soient couvertes. Depuis Kijima, en zone Rutovu dans la province de Burunga, Zenon Zabimana pour la radio Isanganiro.
Isanganiro, la radio de l'avenir.
Le gouvernement du Burundi devrait revoir sa politique de l'habitat afin de permettre à ses fonctionnaires d'avoir leur propre logement en ce moment où les bailleurs sont souvent en conflit avec leurs locataires suite à la hausse des loyers. Ceci est suggéré par Gaspard Kobako, ancien ministre des Travaux publics. Il explique que pour pallier cette problématique de logement, le gouvernement doit envisager de construire des maisons à location-vente comme cela a été fait dans le passé. Écoutez Gaspard Kobako.
Comme par le passé, le gouvernement devrait allouer des moyens en construisant des HLM, c'est-à-dire des habitations à loyer limité, pour qu'ils puissent y vivre, pour que les gens qui n'ont pas assez de revenus puissent se permettre d'y vivre décemment, en payant progressivement avec le peu de moyens qu'ils ont. Je voudrais donner un exemple. Du temps où on construisait Mutanga Sud, il y a un espace qui a été réservé pour ces HLM de 2 niveaux. Du temps où on a construit Mutanga Nord, ça fait la même chose. Il y a donc quelques buildings de 2 niveaux, 3 niveaux, qui sont construits pour des gens qui ont des moyens assez limités. Et donc, l'État devrait construire pour ses fonctionnaires. Quand on a construit le quartier Muyaga, dit communément Gasenyi-Kosat, il y a quelques parcelles qui ont été réservées, par exemple, pour le personnel enseignant. Il en est de même de ce qui s'est passé à Ngagara, à l'époque. Donc, mutatis mutandis, l'État devrait renouer avec cette politique de construction des logements sociaux et des logements à habitation avec des moyens assez modestes. Et pour les modalités de remboursement, c'est très simple. C'est à la fin de chaque mois, on défalque une somme d'argent sur les salaires ou sur les revenus des demandeurs. Ils payent progressivement pendant 15 ans, pendant 20 ans. À la fin du paiement, les habitations reviennent bien sûr à ceux qui auront progressivement remboursé ces logements.
Gaspard Kobako, ancien ministre des Travaux publics. L'attraction des investisseurs, le renforcement de la gouvernance sont quelques avantages que le Burundi tire de l'adhésion à la norme internationale de transparence dans l'industrie extractive, la norme ITE. Déclaration faite ce vendredi par un consultant lors d'un atelier de sensibilisation des parties prenantes du secteur extractif au Burundi sur le processus d'adhésion à cette norme. Jean-Baptiste Sabukwigura a en outre souligné que cette adhésion est effective après avoir rempli 5 exigences, dont une déclaration ou l'engagement de l'État, ainsi que l'établissement d'un groupe multipartite. Et le Burundi a déjà manifesté son intérêt, a-t-il ajouté. Plus de détails avec Mireille Kanyang.
Ce consultant du secteur minier fait savoir que le Burundi aura plusieurs avantages s'il adhère à la norme ITIE, l'ITIE étant l'initiative pour la transparence dans les industries extractives.
Il y a beaucoup d'avantages, en commençant par les investisseurs étrangers qui peuvent venir investir au Burundi. Deuxièmement, il y aura amélioration de la transparence. Par conséquent, les contribuables vont être à l'aise, ils vont voir où vont les taxes qu'ils donnent au gouvernement. Et puis, la mise en place de l'ITIE, c'est une continuité des exigences de la CIRGR. C'est un des outils de la CIRGR. Le Burundi est membre de la CIRGR déjà.
Lors de cet atelier de 2 jours sur le processus d'adhésion du Burundi à l'ITIE, il y a des exigences précises. Jean-Baptiste Sabukwigura.
La première exigence, c'est l'engagement du gouvernement. Deuxième exigence, c'est l'engagement de la société civile. Troisième exigence, c'est l'engagement du secteur privé, donc les personnes qui font les opérations dans le secteur. Quatrième exigence, c'est l'établissement du groupe multipartite, donc composé par le gouvernement, la société civile et le secteur privé. La cinquième exigence, c'est préparer un plan, avoir un plan de travail, convenir entre tous les trois.
Selon une certaine opinion, les contrats miniers ne sont pas rendus publics ici. Serge Havzeliman, un des participants à cet atelier et travaillant dans ce secteur minier, fait savoir que ces contrats sont plutôt rendus publics, vu qu'ils sont connus du ministère de tutelle du côté de l'Office burundais des recettes au BR, voire des provinces. Le Burundi a manifesté son intention d'adhérer à l'ITIE en 2015 et en 2023.
Tous les jeunes âgés de 18 à 25 ans qui le souhaitent et qui en ont la capacité sont appelés à s'inscrire pour intégrer la Force de défense nationale du Burundi. Propos annonce du porte-parole du ministère de la Défense lors d'une conférence de presse ce vendredi. Le général de brigade Gaspard Baratouza a précisé que les inscrits seront répartis en trois catégories, à savoir hommes de troupes, sous-officiers et officiers. Il souligne que tout critère d'appartenance politique est écarté au cours de ce recrutement. Gaspard Baratouza dément ainsi les informations qui circulent sur les réseaux sociaux, selon lesquelles seuls les Imbonerakure, jeunes militants du parti au pouvoir CNDD-FDD, seraient appelés à s'inscrire. On l'écoute.
C'est la raison d'être de ce communiqué, de son point de presse. On a invité tous les médias, sans distinction aucune, pour venir et faire une large diffusion. On n'a pas voulu faire une diffusion restreinte, mais on a voulu faire une diffusion élargie, pour que tout le monde qui veut puisse adhérer, venir se faire inscrire. Il y aura des tests, et ces tests ne seront pas orientés vers un partisan d'un membre d'un parti politique ou bien d'une société civile ou XY. Ça se concerne tous les Burundis. Il faut être Burundais âgé de 18 ans et 25 ans. C'est le reste, il faut réussir les tests, il faut avoir une bonne santé. Sinon, la Force de défense nationale du Burundi accueille tous ceux qui veulent, mais aussi qui peuvent. Donc, la volonté et le pouvoir, ce sont les deux mots clés. Le reste, ce n'est pas nécessaire de présenter cela à la Force de défense nationale du Burundi, parce qu'on doit servir la nation en tant que Burundais et en tant que personne forte physiquement.
La période d'inscription pour le recrutement des candidats officiers va du 29 septembre au 11 octobre 2025. Pour les candidats hommes de troupes, c'est du 13 octobre au 8 novembre. Et enfin, les candidats sous-officiers prendront leur inscription du 17 novembre au 12 décembre 2025. Une femme de la sous-colline Nerushakashaka en commune Manda est hospitalisée après avoir été grièvement blessée par son mari qui lui a arraché une partie de la bouche. C'était mardi. Les sources administratives indiquent que la victime reçoit des soins à l'hôpital, tandis que le présumé auteur a été remis à la justice, selon Neri Jean Bosco, chef de colline Rugunga. Spes Caritas Kavanyana.
Les voisins de cette famille, Arushakashaka, colline Rugunga, en zone Mudugudu de la commune Manda, font savoir que ce couple s'était d'abord chamaillé et une bagarre a suivi. C'est par après qu'ils ont constaté que la femme était grièvement blessée, une partie de la bouche inférieure arrachée par les dents de son mari. C'était ce mardi. Ce couple est caractérisé par des conflits incessants, selon la même source. Les habitants de Rushakashaka et Rugunga déplorent les faits et dénoncent les violences basées sur le genre qui refont surface dans cette localité. Ils demandent que les présumés auteurs soient sanctionnés conformément à la loi une fois que leur culpabilité est prouvée. Au niveau de l'administration, on explique que la victime a été vite évacuée à l'hôpital pour des soins urgents et le présumé auteur a été remis à la police selon le chef de colline Rugunga. Spécialitas Kawanyana en commune Manda pour la radio Isanganiro.
Et pour terminer ce journal, la régie des eaux est prête à indemniser la population victime d'incendie au cas où les faits prouveront que le défaut de cet incendie est le courant fourni par cette entreprise. Le directeur général Jean-Albert Manigomba appelle la population à utiliser du matériel adéquat et des techniciens maîtrisant les mesures de protection lors des installations domestiques afin de les protéger contre tous les incidents électriques. Propos tenus ce mardi lors d'une conférence de presse.
Il faut que la population sache. Notre maison que nous avons ici, ce sont des maisons vraiment qui ont un coût très, très énorme. Alors, pendant la construction de ces maisons, il faut envisager vraiment des techniciens capables à faire des installations électriques, des techniciens qui connaissent bien les normes de protection. Chaque maison doit être protégée avec des disjoncteurs dédiés pour chaque utilisation. Il y a même des disjoncteurs différenciés. Alors, si les maisons sont protégées avec ces genres de protection, il n'y a pas de problème, même s'il y a des perturbations. Premièrement, pour dire que la régie des eaux a impacté votre maison, il faut que le compteur commence à être brûlé. Mais si on regarde que notre compteur n'a pas eu de problème côté compteur, c'est-à-dire que côté maison, c'est le propriétaire de maison qui n'a pas protégé sa maison. Dans ce cas, alors, la régie des eaux ne peut pas indemniser. Mais si par exemple on remarque que le défaut est venu de la régie des eaux, c'est-à-dire que le compteur aussi a été brûlé, dans ce cas, la régie des eaux indemnise la population. Mais la plupart des cas que nous avons déjà remarqué, on trouve que nos compteurs sont intacts et que nos compteurs n'ont pas connu aucun problème. C'est pourquoi alors je fais l'appel à la population de chercher des techniciens capables à protéger les maisons, c'est-à-dire pendant l'extraction électrique, chercher des techniciens qui ont une connaissance considérable concernant la protection. Si nous avons par exemple une prise, là où on va raccorder par exemple un chauffe-eau ou par exemple faire à l'eau passée ou bien cuisinière, il y a des disjoncteurs dédiés à ces prises. Mais si on change par exemple un disjoncteur dédié aux prises et on le change avec un disjoncteur dédié à l'éclairage, c'est-à-dire on va rencontrer des problèmes. C'est pourquoi vraiment je conseille à la population de chercher des techniciens capables à faire des installations domestiques qui ont des connaissances, qui savent bien les normes à installer, c'est tout concernant les disjoncteurs de protection.
Et ainsi se referme ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi.
Jean Bosco, Douimana.